Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Dans la voiture de Pete pour prendre la route du café dont vous aviez trouvé l'adresse en cherchant dans les pages jaunes, ou en tout cas l'équivalent américain.
Le bon vieux Botin.
Voilà, tout à fait. Le Blue Moon Café, il se trouve dans un quartier populaire en pleine reconstruction. D'ailleurs, la rumeur court même que la future salle des Chicago Bulls pourrait être construite non loin dans les années à venir. C'est en pourparlers. Cependant, c'est un quartier chargé d'histoire et ceux qui connaissent celle de la ville ne peuvent que reconnaître l'adresse à laquelle se dresse maintenant ce humble café à la devanture bleu nuit. Au numéro 2350 de West Madison Street se trouvait autrefois le quartier général du parti des Black Panthers en Illinois et on peut encore voir sur la façade des éclats causés par les fusils à pompe qu'avait utilisé la police lors de son raid de 69. Le bâtiment paraît ancien, mais a été rénové suite aux ravages causés par les forces de l'ordre à l'intérieur. Il y a une baie vitrée qui donne sur l'intérieur du café et qui permet d'y voir les tables, les chaises et le comptoir, et les deux portes, une de part et d'autre, la première donnant accès au café, l'autre au logement des étages supérieurs. Au moment où vous arrivez, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a encore de la lumière. Il y a une jeune femme qui a l'air d'être en train de faire le ménage et de finir du coup de fermer le café. Elle a l'air d'être seule en tout cas et de terminer son service.
Marty va pas rentrer, elle va juste aller toucher un impact de balle et ensuite aller faire plutôt le tour du bâtiment pour regarder s'il y a une entrée de secours, comment c'est fait un peu derrière.
Ce serait compliqué de faire le tour du bâtiment du coup parce que ça impliquerait d'aller carrément dans une autre rue et tu peux supposer qu'il y a probablement un autre bâtiment qui est bâti dos à dos à celui-ci.
J'irais bien quand même du coup checker ce bâtiment. Ça prend quelques minutes à pied, le temps de laisser le reste du groupe mener son investigation.
D'accord, très bien.
Moi, je vais m'occulter et rentrer dans le café avant qu'elle ferme boutique. Comme ça, si jamais ça lui prenait l'envie de mettre les autres dehors, je serai à l'intérieur et je pourrais vaquer à mes occupations.
Et Armand va rentrer.
Et Ulysse va pleurer toutes les larmes de son corps que tout le monde l'abandonne avec Armand pour faire du social.
Pete va me faire un jet de soif pour passage invisible.
Et c'est fait.
Pete reste à deux en soif, très bien. Armand pousse la porte, suivi par Ulysse, et Pete profite de l'ouverture de celle-ci pour pouvoir pénétrer. Sur la porte, il y avait l'écriteau fermé qui était tourné, mais la porte n'était pas encore verrouillée et vous pouvez entrer à l'intérieur. La jeune femme se tourne vers vous. Elle semble pas avoir plus de 30 ans. Elle a des cheveux au burn réunis en un chignon. Elle porte un jeans et un chemisier blanc. Sur son badge, on peut lire qu'elle s'appelle Elisabeth.
Bonsoir.
Bonsoir, mais nous sommes fermés. Je suis en train de...
Oui, oui. Elle se tient le ventre et... Excusez-moi, je sais bien, mais on cherche partout et tout est fermé, mais j'ai une envie pressante.
Elle semble un petit peu étonnée, mais elle te fait signe. C'est par là, madame. Elle t'indique du coup les toilettes du café.
Merci.
La configuration du café est assez simple. Il y a une grande salle principale avec un petit comptoir derrière lequel on peut trouver tout ce qu'il faut pour préparer un bon café et d'autres choses. Bien que la décoration soit sobre globalement, on peut lire sur un des murs la devise des anciens occupants des lieux qui est peinte en lettres rouge sang. All power to the people. C'était la devise des Black Panthers. Les toilettes se trouvent dans le fond. Il y a une porte qui y mène et Armance, en passant, a pu remarquer qu'il y avait également une porte qui semblait mener à peut-être les souterrains du bâtiment.
Très bien.
Et une autre qui avait l'air de mener à ce qui semble être peut-être une autre pièce au même niveau. La jeune femme demande gentiment « Est-ce que ça vous dérange si je termine ce que j'étais en train de faire le temps que madame ait terminé ?»
Je vais attendre dans un coin, ne vous inquiétez pas. Et je commence à faire le tour du truc en regardant, genre s'il y a des trucs suspendus au mur, je regarde les décos, les trucs, en la laissant faire son machin. Mais évidemment, en surveillant si jamais je trouve un passage secret super.
Non, il n'y a pas de passage secret en plein milieu du café.
Oh.
Par contre, Elisabeth reprend son ménage en quelque sorte, elle avait un balai, elle termine de le passer, déplace des couverts, des trucs comme ça. En tout cas, elle est en train de préparer tout ce qu'il faut pour l'ouverture du café du lendemain. En attendant, on va retrouver Marcy, qui, elle, a fait un petit tour dans le quartier pour se retrouver dans la rue immédiatement parallèle afin de retrouver ce qui semble être l'immeuble qui colle dos à dos, celui-ci. Et qu'est-ce qu'elle veut y faire, Marcy ?
Bah, pas grand-chose, hein, plutôt rester en sentinelle, quoi.
Donc elle veut surveiller ça pour voir au cas où...
Oui, c'est plutôt le principe. Après, si elle peut justement détecter, en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'imaginer comment un gang de Nosferatu pourrait se déplacer, essayer de mettre en place une surveillance, suivre des gens. Est-ce que les toits sont accessibles, ce genre de choses, mais vu la photo...
Les Nosferatu possèdent une bonne maîtrise de l'occultation en général, et c'est là leur carte, en fait. Ils peuvent évoluer au milieu d'une foule sans être remarqués. Est-ce qu'elle essaye de pénétrer dans l'immeuble ? Il fait à peu près la même taille que celui où se trouve le café. C'est un immeuble similaire qui doit dater lui aussi du 19e siècle, fin 19e siècle, donc assez usé. Il y a une porte. Là, par contre, ça a l'air d'être un immeuble d'habitation. Il n'y a pas de commerce ou quoi que ce soit dedans. Marcy est plutôt douée pour rentrer par effraction. Si elle le voulait, elle pourrait certainement rentrer à l'intérieur.
Ouais, elle va tenter de rentrer. Après, l'idée aussi est de pas tellement faire attendre le reste. Mais donc, elle... En fonction du temps que ça prend, elle va quand même tenter.
Alors, donc, tu vas me faire un jet de dextérité plus furtivité plus effraction. Donc là, ça ferait 7 dés. 3 succès, c'est largement suffisant pour crocheter la porte de devant et rentrer silencieusement dans l'immeuble. Marcy arrive immédiatement dans une espèce de petit couloir qui sépare les habitations. Il y a un appartement à gauche, un appartement à droite et un escalier tout au fond qui monte et qui descend.
Je vais plutôt checker l'escalier qui monte. Je guette des traces de passage de Nosferatu, mais c'est pas très précis comme trace.
C'est pas des fantômes de Ghostbusters, ils laissent pas du slime. Donc il n'y a pas des traces de Nosferatu, c'est un peu vague. Par contre... Marcy, quand elle s'approche de l'escalier, elle peut voir que ça monte dans un autre couloir tout à fait similaire, où là aussi, il y a deux appartements qui se font face.
Et un étage en dessus encore ?
Non, il n'y a qu'un seul étage.
Ok, bah alors elle va checker l'escalier qui descend cette fois-ci.
L'escalier qui descend mène à une autre porte, qu'elle déverrouille sans trop de problèmes, et elle se retrouve alors dans la cave.
Ok.
Ici, il y a quelques boxes en bois qui ont été aménagées pour séparer les possessions des différents habitants de l'immeuble. Les murs ont l'air d'être faits en briques rouges, assez anciens. Il y a une lumière électrique qu'elle a pu allumer en entrant. En apparence, rien de particulièrement étonnant ou choquant dans un tel endroit.
Je vais aller regarder attentivement le mur qui est le mur tourné vers la cave correspondante du côté du café.
Très bien, tu vas me faire un jet d'astuce plus vigilance. Ça fait 5 dés. Est-ce que tu veux faire un coup de sang pour améliorer ça ?
Oui.
Donc ça fait 7 dés. Tu peux utiliser un point de volonté pour augmenter tes résultats. Là, tu as 2 succès pour le moment.
Ok, je vais faire ça, oui.
5 succès, c'est très bien. Tu dois lancer un dé de soif pour ton coup de sang. C'est raté, tu passes à 2 en soif. Marcy sent qu'effectivement, utiliser les bénéfices de sa condition de descendant fait que sa faim augmente. Elle sent que la force qu'elle tire, la précision, la vigilance qu'elle obtient du fait de cette bête qui l'habite a un coup. Et ce coup, c'est cette envie de planter ses crocs dans le cou d'un mortel et de lui retirer tout son sang.
Mais Marcy est rassurée d'imaginer des petits sacs de sang bien chauds et bien douillés juste au-dessus, dans les appartements.
En manœuvrant un petit peu sur le mur, en l'observant, en essayant de regarder comment il est constitué, Marcy finit par distinguer un espèce d'endroit où les briques sont pas totalement solidaires du reste du mur. semblerait qu'il y ait un espèce de passage secret qui soit aménagé là.
Très bien. Je me pose des questions devant ce passage secret, me demandant si ça vaut le coup de checker un peu plus loin ou si je dois aller chercher les autres, et je vais me décider pour pousser encore un peu l'exploration. Donc j'essaye de déposer les briques de la façon la plus soigneuse possible pour masquer au maximum les traces ensuite de mon passage.
Tu déplaces la partie qui semble amovible ?
Oui.
D'accord.
J'ai passage invisible aussi en occultation.
C'est vrai. Si tu veux l'utiliser, tu peux.
Vraiment ma spécialité, les jets de soif.
C'est raté. Du coup, Marcy passe à 3 en soif. Ça commence à devenir critique. Et c'est une bête tourmentée qui l'habite, alors qu'elle déplace cette espèce d'agencement de briques qui visiblement peut se pousser. Pour ça, elle a dû déplacer une caisse qui avait été posée devant et elle a pu ouvrir le passage et pénétrer à l'intérieur tout en le refermant sur elle-même. De votre côté, Pete, Ulysse et Hermance, comment ça se passe ?
Elle va tirer la chasse. Et puisque Elisabeth est sortie du couloir, sortir et ayant perdu son sourire factice pour son sourire de folie, hein, te regardant Ulysse, eh bien je vais m'en occuper. Soit je la questionne quant au propriétaire qui est un des nôtres, soit nous nous présentons à lui-même directement, mais c'est son territoire et donc nous risquons d'attiser son ire. Que faisons-nous ?
Ulysse n'a pas le temps de te répondre, Armance, que déjà Elisabeth, qui a remarqué que du coup tu étais sortie des toilettes, se reporte dans votre direction et vous dit « C'est bon, tout va bien, madame, je peux fermer à présent ?»«
Oui, on va vous laisser. » »«
J'ai fini, moi aussi, je vais m'en aller. » »«
On peut vous déposer hein, chez vous, si vous n'habitez pas très loin, on a une voiture. » »«
Non, non, ne vous inquiétez pas pour moi, madame, c'est très gentil, je n'habite pas très loin. » »«
Ah oui, vous avez de beaux yeux, en tout cas. » Elle va s'approcher d'elle.
Elle plisse les sourcils, justement, un peu étonnée. Que fait Armance ?
Elle en fait là, s'approche d'elle et on oublie tout.
Utilise brouillage mémoriel.
Exactement.
Ce qui permet d'effacer votre présence à tous les deux.
Pendant que je lui fais mon brouillage mémoriel, je me tourne avec sensualité derrière son dos. Je la tourne en direction de la porte de la sortie. Et je me soustrais à elle discrètement. J'attrape la main d'Ulysse et je nous attire dans les toilettes pour nous enfermer dedans.
Bah écoute, moi je me laisse embarquer parce que je pense que c'est pas le moment de contrarier les plans, mais bon, allons-y.
Pete peut se rendre compte que Elisabeth a l'air un peu hagard. Quand elle reprend conscience de ici et maintenant, elle a l'impression qu'il lui reste des choses à faire pour pouvoir fermer boutique. Sauf que lorsqu'elle se tourne, elle voit que tout a été balayé, que tout a été installé. Et ça la trouble un petit peu, elle se frotte la tête. Ah, tu perds la boule, ma pauvre Elisabeth. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Elle retire son tablier, qu'elle va pendre à un crochet pas très loin de la caisse. Et tu vois qu'elle se dirige vers la porte en sortant des clés. Elle l'ouvre, passe de l'autre côté et referme la boutique.
Eh bien, il dit, sortant de ces toilettes, à moins que vous voulez me faire un petit béco.
Ce n'est pas au programme, mais est-ce une bonne idée de nous enfermer à l'intérieur ?
Moi, c'est à ce moment-là que je lève mon occultation juste à côté, vraisemblablement, d'Armance et Ulysse, et je vous dis, de toute façon, c'est ce que j'avais prévu dès le début. On va explorer ces portes. J'ai comme l'impression qu'on pourrait y apprendre des choses intéressantes.
Oui, ou alors il est en train de veiller et il va nous entendre et il va se fâcher. Peut-être devons faire du bruit et nous présenter.
Je ne fais pas une nouvelle intrusion une deuxième fois en deux nuits.
Moi, c'est pas trop mon mode opératoire, personnellement, mais...
Il y a cette porte. Elle va tenter d'ouvrir la porte, déjà.
Laquelle ? Celle qui descend, celle qui semble aller dans une autre pièce ?
Ah, il y en a une qui descend.
Oui.
Bah, elle va essayer d'ouvrir les deux pour voir laquelle s'ouvre, si on est une verrouillée.
Bah, laquelle elle essaie d'ouvrir en premier ?
D'abord celle qui amène vers une autre pièce, parce qu'elle va inspecter celle qui amène vers le sous-sol.
La pièce s'ouvre, et ça donne sur une sorte de réserve, où il y a énormément de cartons et de boîtes et de choses diverses qui doivent servir du coup au service.
Oh ! Est-ce qu'il y a du chocolat ?
Il y a du chocolat.
Elle prend une petite tablette, là, elle l'ouvre et elle commence à croquer dedans. On a trouvé déjà quelque chose de très intéressant.
Je ignore totalement la remarque d'Armance et je m'intéresse à la porte qui semble descendre.
Ne touche pas. Ça colle au palais. Elle est peut-être enchantée. Qui sait ? Certains payent l'un des miens pour protéger leur domaine. Elle regarde la porte MJ, elle va tenter de regarder si elle ressent quelque chose qui relève de la magie trémérée.
Je hausse mon sourcil et je recule d'un pas pour laisser la place à Armance.
Effectivement, tu peux utiliser astuce plus auspex ou résolution plus auspex pour observer quelque chose et voir s'il y a un élément magique qui est à l'œuvre ou quelque chose d'invisible. Mais effectivement, ça peut permettre de sentir un rituel de sorcellerie du sang.
Elle va faire ça, donc c'est 5D, je lance ça. Hop.
4 succès. Armance observe les lieux, elle jette un coup d'œil alentour. Et rien ne semble lui sauter aux yeux. Tout ici sent la normalité.
Cette porte n'a pas l'air bien menaçante. Allez-y, Pete.
Eh ben, il était temps. Et j'ouvre la porte, quand même en faisant attention de ne pas faire trop de bruit, parce que on soupçonne quand même qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui pourrait veiller ou dormir au sous-sol.
On va se retourner vers Marcy. Marcy, qui avait ouvert un passage et qui avait pénétré à l'intérieur, l'avait refermé sur elle-même, s'était retrouvée dans le noir, dans un tout petit passage qui semble mener à une porte.
Ok.
Elle peut le sentir de ses doigts, une clenche. D'ailleurs, on dit pas une clenche, je crois, à part en Lorraine. On dit comment ? Une poignée de porte. Il y a une poignée de porte qu'elle avait entrevue quand elle avait ouvert le passage.
Eh ben, Marcy va essayer d'ouvrir cette porte, discrètement.
La porte s'ouvre, et là, Marcy se retrouve dans un sous-sol qui a visiblement été aménagé pour protéger l'intérieur des rayons du soleil. Toutes les fenêtres qui donnaient au niveau du sol de la rue ont été murées, et d'épais rideaux pendent un peu partout afin d'isoler les espaces et d'apporter une forme de confort à ce refuge souterrain. Une bonne partie des murs sont couverts de bibliothèques chargées de livres empilés pour en maximiser la contenance et on trouve plusieurs canapés formant un cercle et un bureau dans un coin sur lequel trône une machine à l'écrire. À ce bureau se tient une personne en train de taper justement à la machine. Il est grand et maigre, avec des cheveux noirs et un bouc bien taillé. Il porte un col roulé noir et un pantalon noir serré. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil fantasy au vert rouge. Et il ressemble un petit peu au célèbre peintre, je sais plus comment il s'appelle,
Bob Ross.
Et un beaucoup moins inquiétant d'un coup.
L'ouverture de la porte est suffisamment discrète pour que la personne qui se trouve au bureau en train de taper sur sa machine à écrire ne fasse pas attention à Marcy, qui peut ensuite refermer celle-ci et pénétrer à l'intérieur de ce refuge sans être vue.
Et eh bien c'est ce que fait Marcy et qui reste un peu figé en découvrant non pas un passage souterrain peut-être qui menait vers les égouts comme elle aurait pu l'imaginer, mais directement le repère de la personne qu'il recherche puisque c'était bien cet écrivain du Blue Moon Café, donc c'est en fait un écrivain résident.
En tout cas ça a l'air d'être ça.
Est-ce que Marcy a sur elle un bout de papier, un crayon, quelque chose comme ça ? Ou elle cherche, si elle a pas, elle cherche dans une table à proximité dans l'idée éventuellement de laisser simplement un message.
C'est possible, oui, effectivement. Le papier et les crayons, c'est pas vraiment ce qui manque dans ce sous-sol. Et sur des meubles ou sur des rayons de bibliothèque, sur un des canapés, il y a des choses un peu partout, des blocs-notes, des stylos, des crayons.
Elle va griffonner un message. Vous êtes en danger. Retrouvez-moi demain à 21h. Au croisement, là où on est allé chercher Mackenzie, le SDF fou, sous le pont là de l'Interstate, où il y avait un rassemblement de SDF.
Alors que Marcy est en train de placer son message, d'ailleurs, où est-ce qu'elle le place ?
Bah, elle le laissera ensuite sur une table dans le bureau, ou par terre, si ça se voit mieux, vu qu'il est tourné sur sa machine à écrire, par terre au milieu de la pièce.
Elle dépose le bloc-notes par terre avec son message. Et de leur côté, Armance, Pete et Ulysse ouvrent la porte menant au sous-sol.
Elle va pousser Pete pour qu'il avance en premier.
Si c'est allumé, effectivement, je mène la marche avant de redéclencher mon occultation.
Oh, Oh, mais non, d'un côté, elle est en sécurité parce qu'elle sait qu'il est devant elle. Donc elle se dit que si il lui arrive quoi que ce soit, c'est lui qui prend. Donc elle est contente. Et du coup, elle avance tranquillement.
Alors que vous descendez les marches de l'escalier, vous pouvez noter que les planches de celui-ci sont assez grinçantes. Et vous entendez une voix qui provient d'en bas et qui dit « Elisabeth, c'est bon, tu peux rentrer, j'ai de quoi m'occuper. » Pendant ce temps-là, Pete ayant utilisé du coup passage invisible une nouvelle fois, augmente sa soif de 1 puisqu'il a raté le jet de dés. Donc c'est un Pete assoiffé qui descend le premier. D'ailleurs, Marcy voit l'écrivain qui a levé la tête en direction de l'escalier.
Oh, cette jeune enfant est déjà rentrée. Je me présente, Armand.
Il se lève d'un coup de sa chaise comme un diable sort de sa boîte. Mais qui êtes-vous ?
Personne ne me voit, mais je me frappe le front de la paume de ma main.
Je suis l'une des hôtes. Je viens de l'Élysée, on vient de sortir. Vous êtes en danger, j'aimerais bien discuter avec vous. J'ai dû... Vous en faites pas, n'a rien, je l'ai juste secoué un peu la mémoire. C'est un joli escalier, mais c'est un petit peu étroit. Je peux rentrer ?
Je ne vous ai pas invité ici.
Mais je suis désolé, mais vous êtes en danger.
Comment ça, en danger ? De quoi vous parlez ? Là, il voit qu'il y a Ulysse derrière.
Ils sont peut-être fanatiques, on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'ils vous ont dans leur papier. Votre nom a été cité, ainsi qu'un autre lieu.
Le regard de l'homme se tourne vers Ulysse, comme s'il cherchait à donner du sens à toutes les paroles dites par Armance. Il a l'air très confus, il a ôté ses lunettes rouge sang pour les poser sur son bureau, et vous voyez qu'il a ouvert un tiroir de celui-ci pour sortir une arme à feu.
Ah oui.
Mais qu'il ne pointe pas en votre direction. Visiblement, c'est un geste préventif, il a l'air d'être sur ses gardes. Écoutez, vous êtes chez moi, je ne comprends pas ce que vous venez faire ici. Ces histoires de culte, etc. n'ont rien à voir avec mes affaires.
Nous sommes désolés de cette intrusion. Malheureusement, c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour vous prévenir rapidement. Comme le disait mon ami, ici, nous avons découvert qu'il se tramait de sombres machinations dans les tréfonds de la ville et que vous faisiez probablement partie des cibles visées et que votre vie risque d'être en danger de manière imminente. Nous avons déjà prévenu une des cibles. Vous étiez la seconde.
D'ailleurs, vous n'êtes pas très bien protégée. Hein. Je dois avouer.
Elle n'a pas tort.
Il n'y a que mes fidèles qui savent que je suis ici. Je ne comprends pas vraiment comment vous avez pu apprendre où je m'abrite.
Si nous avions voulu vous nuire, je pense pas que nous serions en train de discuter à cet instant de manière si calme. Et justement, nous avons trouvé que vous étiez ici grâce à nos informations concernant les gens qui vous veulent du mal. Donc, ils savent de fait que vous êtes ici et ils auraient très bien pu être à notre place aujourd'hui. Avec quelles conséquences, on ne sait pas.
Pour information, je me rapproche juste de lui au cas où il tente quoi que ce soit avec son arme. Mais je fais rien pour l'instant.
En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir l'intention de l'utiliser pour le moment. Elle est tendue vers le sol. Et il garde ses distances avec les deux autres qui lui paraissent visiblement assez suspects tout de même. Que fait Marcy pendant ce temps-là ?
Marcy, elle hésite. Elle a hésité trois fois à prendre la parole.
Hey, moi aussi,
On se redose de l'ombre.
C'est pas très sécurisé. Oui ? Ah oui, bah ça, je confirme. Non, Marcy, elle va essayer de prendre un bouquin dans la bibliothèque et de s'asseoir sur la table et de commencer à le lire en restant invisible.
Et d'ailleurs, nous avons quelque part confirmation. Nous nous doutions que vous étiez un vampire ici, puisque la première cible en est un. Donc par conséquent, ce que nous avons bien compris, dans notre théorie plausible, vous êtes la cible de ces Nosferatus. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle va commencer à se tourner sur elle-même pour faire des 100 pas dans son propre bureau, comme si elle s'appropriait des lieux en l'espace de quelques secondes, alors qu'elle est sûrement braquée peut-être par l'arme de temps en temps.
Il a l'air un peu circonspect vis-à-vis d'Armance. Il ne montre pas de signe d'agressivité. Par contre, qui est le plus proche de l'escalier qui monte à l'étage ?
Bah, j'imagine que c'est moi qui suis resté un peu plus en retrait.
T'entends du bruit à l'étage ?
Ah. Du coup, je dis aux autres « chute » et je fais un signe en pointant mon oreille comme quoi il y a du bruit à l'étage. en essayant d'être aussi discret que possible, mais qu'ils se taisent tous, y compris Armance.
L'homme se tait, il a l'air d'attendre de voir ce que vous comptez faire tous les deux.
Si vraiment tout le monde se tait, machin, je me rapproche discrètement des escaliers pour jeter un coup d'œil en haut.
Non, tu vois rien de particulier, tu vois juste la porte en haut. Vous l'avez probablement laissée ouverte d'ailleurs.
Ouais, oui, oui, c'était moi le dernier, je l'ai laissée ouverte.
Donc tu vois juste la porte en haut qui est ouverte. Pas de silhouette à l'horizon.
D'accord. Je suis assez sûr d'avoir entendu quand même du bruit. Et c'était quoi comme genre de bruit? Parce que du bruit...
Un petit bruit métallique.
Par exemple, la goupille d'une grenade qu'on enlève.
Au hasard.
Ou la serrure qui est forcée par des nosphées invisibles qui rentrent et du coup, tu les verras pas, quoi.
On est combien à être invisible là dans la pièce?
On peut pas faire 14.
En fait, vous êtes 12 dans la pièce, il y a tout le monde qui se marche sur les pieds.
On est 12, mais personne avec Ospex.
Non, bah du coup, si tout le monde continue à se taire et que j'entends rien d'autre, je me retourne une dernière fois vers les autres en disant silence et n'écoutant que mon courage, je remonte tranquillement l'escalier.
Bien, je pense qu'Armand a remarqué Marcy, hein. Elle a probablement rien dit pour pas...
Oui, 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 j'imagine.
Ulysse parvient en haut de l'escalier et voit le café qui s'étend devant lui. La porte est ouverte, mais il n'y a personne.
Ok, donc je redescends en refermant notre porte, la porte de l'escalier. J'imagine que tout du long, normalement, je l'ai pas précisé, mais c'était dans mon idée, pardon. Le but, c'était aussi d'essayer d'occuper l'escalier, vu que je sais quand même, je pense que Ulysse doit savoir que les nosphées et machin peuvent s'infiltrer. Donc j'ai essayé de garder mon corps dans la largeur de l'escalier tout du long. Là, pareil, je me suis avancé. J'arrive à voir la porte depuis juste la hauteur de l'escalier ou fallait que je sorte plus?
Oui, parce que depuis la porte, tu vois le comptoir et tu vois derrière. Et en tout cas, tu vois que la porte de devant est entrouverte.
Bah si c'est ça, du coup, sans sortir, sans laisser la possibilité à quelqu'un de se faufiler dans mon dos, je récupère la poignée de la porte des escaliers et je la referme en faisant marche arrière sans me péter la gueule dans les escaliers. Et je redescends et une fois arrivé en bas, je leur dis « La porte d'entrée est ouverte, il y a un autre intrus. Peut-être que nous devrions tous dégarpir. »
L'homme que vous avez interrompu dans son écriture s'agite un petit peu et il regarde à droite à gauche. Il agrippe une liasse de papier qui prend un bras-le-corps avec son pistolet toujours dans l'autre main. Et il fait signe aux autres « Vite, dépêchez-vous, passons par là. »
Vous voulez que j'emporte quelque chose ?
Là, tout ce que vous lui avez dit, et puis là maintenant, la nouvelle que peut-être quelqu'un est en train de venir l'attaquer... Ça le fait un peu paniquer, et il indique 2-3 trucs ici et là. Ça a l'air d'être principalement des bloc-notes et puis des liasses de papier sur lesquels il a tapé à la machine. Peut-être le dernier roman sur lequel il est en train de travailler.
Je fourre les 2-3 trucs qu'il indique dans sa corbeille à papier, pour pas trop me charger. Je la prends sous le bras et je le suis dans sa fuite.
Il se dirige vers la porte par laquelle Marcy était entrée plus tôt. Il l'ouvre, et alors que celle-ci est à peine ouverte, vous entendez les gonds de la porte qui mène au café sauter d'un coup, comme par l'effet d'un impact très violent, et la porte s'écroule dans l'escalier.
Elle pousse le mec pour mais violemment pour sortir juste derrière lui, effrayé calé.
Je pense du coup que moi je vais me terrer dans un coin de la pièce, très curieux de voir qui est-ce que je vais voir débarquer dans le petit bureau de notre écrivain.
Je vais rester avec Pete aussi.
D'ailleurs, on peut partir du principe que Marcy voit Pete, du coup, vu que Marcy a Ospex, non ?
Ouais.
Tu vas sentir l'invisible ?
Oui.
Marcy voit que Pete se terre dans un coin en restant sous le voile de l'occultation et décide du coup de faire de même.
Ulysse, qui était du coup pas tout à fait en bas de l'escalier, vu que j'avais ramassé les affaires pour le mec et je m'apprêtais à me barrer quand la porte a sauté, a du coup un temps d'arrêt et chuchote Pete en regardant un peu tout autour de lui, voir si c'est bon, il s'est barré par la porte et on y va tous, ou en gros il veut pas l'abandonner tout seul, donc il reste planté là en attendant que peut-être Pete lui réponde, mais je sais pas.
Je me rapproche d'Ulysse et sans que tu ne saches réellement d'où ça vient, t'as simplement une voix qui te murmure à l'oreille. Tire-toi de là, putain.
Bon, bah, je m'équipe de là, alors.
Alors que tu te diriges pour entrer dans le couloir, la personne qui a fait sauter visiblement la porte dévale l'escalier Il s'agit d'un homme habillé tout de noir. Il a de longues oreilles, un nez crochu, un crâne totalement imberbe à l'exception de quelques touffes duveteuses, et une dentition aussi pointue qu'irrégulière. Et il a deux longs couteaux, mais il a l'air seul. En tout cas, il dévale l'escalier seul, l'air passablement hostile.
Bref, on a le même dentiste, mais on n'a pas le même tailleur.
Tout à fait.
Ouais, je pense que je vais rentrer dans le passage en fermant la porte derrière moi. Et pour l'instant, je tiens la porte en attendant de voir comment Armand et l'autre ce qu'ils font.
Armand s'est à nouveau doublé par le descendant qu'ils sont venus sauver, puisque c'est lui qui connaît un petit peu mieux le passage et que elle, dans la panique, devait ne pas trop savoir quoi faire face à ce nouveau mur.
Oui.
Il dit poussez-vous, c'est comme ça. Et là, en fait, certaines briques semblent avoir été assemblées de manière cohérente avec un mécanisme qui permet de les retenir quand même. Et il pousse tout ça de manière assez simple, vu que la boîte qui avait été placée derrière pour cacher le passage a été retirée par Marcy plus tôt, ce qui ne manque pas d'étonner l'homme en question. Et il se retrouve dans le sous-sol de l'autre immeuble. Ulysse, si tu envisages de combattre, ça peut être le bon moment pour activer tes armes bestiales.
Mais je vais faire ça par sécurité, effectivement. Mon plan pour soudir est éventuellement que le mec essaye d'ouvrir la porte. Donc il va devoir tirer, donc c'est moi je lâche d'un coup et potentiellement je me jette sur lui quand il lâche. C'est un peu l'idée. Et nos deux acolytes lui tombent sur le rable par derrière aussi.
Succès, Ulysse reste donc à 1 en soif. Là, avec l'utilisation des armes bestiales, c'est comme si les doigts d'Ulysse se transformaient en gigantesques griffes qui seraient probablement capables de découper peut-être du métal. En tout cas, il s'agit d'armes particulièrement dangereuses et Saw serait celui qui oserait s'y frotter. Pendant ce temps-là, Marcy et Pete peuvent voir que le Nosferatu qui a pénétré à l'intérieur a vu que la porte avait été ouverte. Il crie aux autres « Ils sont là! Ils sont plusieurs! Venez !» Et là, c'est Marcy qui va me faire un jet parce que Pete voit le Nosferatu tout seul qui se dirige vers la porte qu'a fermée Ulysse, mais personne d'autre. Marcy, par contre, peut peut-être voir quelque chose grâce à sentir l'invisible. C'est astuce plus auspex plus 1 dé du fait de sa puissance de sang de 2.
4, 5, 6.
5 succès, excellente réussite. Alors que Pete voit un seul Nosferatu s'agiter en direction de la porte par laquelle Ulysse et les autres se sont enfuis, Marcy, elle, voit les 4 autres qui sont sur ses talons et qui descendent, tous similaires. Certains d'ailleurs, comme Pete en avait fait le rapport, portent des tenues de prêtres catholiques et tous sont armés. Il y en a 2 qui tiennent des pieux et les 2 derniers sont équipés chacun d'un sabre, type médiéval qu'on pourrait trouver probablement chez un forgeron local, ou en tout cas quelque chose qui ne paraît pas anachronique dans le sens où ça peut s'acheter encore de nos jours.